Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
T'es très léger, mais c'est une forme de burn-out, oui. C'est-à-dire que je suis parti en vacances au ski, et pendant cette semaine qui aurait dû être une semaine de rêve, je n'avais que BFM Business en tête. J'ai pas pu m'en extraire. Et donc ça, c'est... Ça, il faut pas, quoi. Voilà. Et donc, je suis rentré et j'ai dit stop, c'est fini. Dimanche soir, je réunis tout le monde et je dis voilà, je vais lundi matin, je vais leur dire que c'est fini. Ma femme fait mais tu fais quoi d'autre? Je dis j'en sais rien. Ah Et les enfants, qui sont grands, hein, font tous ouais, vas-y, papa, quoi. En fait, les enfants vous disent t'es devenu chiant, quoi. Donc, ouais, il faut que t'en sortes, quoi. Si vous n'arrivez pas à décrocher, ça veut dire que vous n'arrivez pas à régénérer votre énergie mentale. Et puis, vous savez que vous rentrez, vous êtes encore plus usé que quand vous étiez parti, vous avez plus d'idées, tout le monde vous énerve. Là, le rhinocéros se met en colère. Il se met à faire n'importe quoi. Voilà.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans l'épisode de la semaine dernière, avec Augustin de Michel et Augustin, je vous avais promis l'idole des entrepreneurs. En tant que femme, et amie de beaucoup d'entrepreneurs, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. J'ai donc contacté Stéphane sur LinkedIn et pour mon plus grand plaisir, il m'a dit oui. J'avoue avoir été un petit peu déroutée au début de l'interview. Vous comprendrez pourquoi en l'écoutant. Mais cette conversation est largement à la hauteur de mes espérances. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment ? En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute favorite et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Revenons-en à Stéphane. Il a fait des études de journaliste, commence sa carrière chez Europe 1 en tant que reporter, puis grand reporter, puis rédacteur en chef. Après 6 ans, Stéphane est une des figures emblématiques de BFM Business. Aujourd'hui, Stéphane a 55 ans, et est le président de Bismart TV. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Stéphane Soumier.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez me présenter l'objet que vous avez choisi pour vous présenter?
On commence avec ça.
Ouais, on commence avec ça.
Mais donc, il n'y aura pas d'image?
Alors, l'image, elle sera sur Instagram et sur le blog pourquoipasmoi.co.
Bon, parce qu'il faut le voir, quoi. Alors, mais elle était compliquée, votre question, parce que... une personnalité peut pas ressembler à un objet peut pas ressembler à une personnalité, donc j'ai cherché et j'ai trouvé ce rhinocéros. Alors d'abord parce que c'est un entrepreneur qui me l'a offert, et ensuite parce que ça va bien, c'est-à-dire alors qu'est-ce que j'y mets dans ce rhinocéros? J'y mets une certaine détermination, il sait où il veut aller. Et puis quand même il y va, voilà, il faut mettre pas mal de moyens pour l'arrêter. Et puis l'autre truc qui m'intéresse avec ce rhinocéros, c'est qu'il n'y a pas de troupeau de rhinocéros. Le rhinocéros, je pense qu'il y a une phrase de, je crois que c'est Brassens, mais je suis pas sûr. Au-delà de deux, on est assez vite une bande de cons. Et je n'aime pas le groupe, je n'aime pas le troupeau, je n'aime pas, Donc ça m'allait bien, et puis il a une certaine rudesse, le rhinocéros, il manque parfois d'élégance, donc ça me va aussi, voilà. Donc, je trouvais assez sympathique ce rhinocéros. Voilà.
Et l'entrepreneur qui vous l'a offert, on peut dire qui c'est ?
Oui, bien sûr. Alors, Jonathan Cherki, il a alors il a pas mal pivoté autour de la publicité et particulièrement alors la boîte s'appelle Content Square et particulièrement autour de l'identification de l'efficacité de la publicité, enfin c'est des choses comme ça. Ouais. De l'acquisition, enfin de la transformation.
C'est une très très belle boîte française.
Absolument. Mais c'était il y a très longtemps.
D'accord.
Il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Voilà.
Ok, super. Est-ce que vous pourriez me raconter d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi, où est-ce que vous êtes né?
Ouais, alors ça, c'est souvent des questions que posent les jeunes femmes qui font du podcast. C'est une question de jeunes femmes podcast, ça. Et moi, ça m'intéresse pas d'y répondre. Alors, je peux vous dire que oui, je suis parisien, fils de parisien, petit-fils de parisien. Enfin, Paris et la banlieue, quoi, voilà. Ouais. Et que j'ai une enfance tranquille avec un grand frère, une grande sœur, enfin voilà quoi. Mais raconter mon enfance, ça m'intéresse pas, c'est pas intéressant.
C'était quoi, mais par contre, moi, le truc qui m'intéresse, c'était quoi votre rêve d'enfant? Vous disiez quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai?
Ça tournait beaucoup autour du football. Le football a été la grande passion de ma jeunesse.
Ouais. Et donc, du coup, au moment de se dire, il faut que je choisisse mes études, qu'est-ce que...
Ça s'est fait assez vite, c'est qu'à un moment, il y a une limite physique. J'ai beaucoup joué au football. Je suis pas très grand. C'était une époque où c'était une époque où le football aimait les gars grands, athlétiques. Et donc, assez vite, j'ai réalisé que il n'y avait pas pour moi de chemin de ce côté-là. Vers l'âge de 10-12 ans, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans le truc, quoi. J'ai mené des études assez classiques qui m'ont amené. Alors, le journalisme, ça, je peux raconter pourquoi je suis devenu journaliste. C'est un film qui s'appelle Under Fire. Je connaissais la date de sortie, mais je l'ai oublié. Avec Nick Nolte, vous allez pouvoir retrouver ça. L'histoire est la suivante, on doit être 84, quelque chose comme ça. On est dans les révolutions centra-américaines et sud-américaines, du nord de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Et c'est donc des grands reporters qui sont là pendant ce qui peut être la révolution sandiniste au Nicaragua. Alors que la rébellion est en train de l'emporter, le chef de la rébellion est tué. Ils sont au bord de prendre la capitale, qui aurait pu être Managua en l'occurrence, mais le chef de la rébellion tué, ça va peut-être faire mourir ce mouvement révolutionnaire. Et donc les révolutionnaires vont choper ce grand reporter, Nick Nolte, qui est un photographe, en lui disant, voilà, il faut que tu choisisses et que tu fasses une photo bidonnée de notre leader vivant. Et donc, grande question, je suis journaliste pour raconter ce qui se passe, pas pour mentir, mais en même temps, à quoi ça sert de raconter ce qui se passe si c'est pour tuer une révolution et laisser la dictature en place? Enfin, voilà, les grands débats qui sont les débats qu'on peut avoir quand on est journaliste, et il va faire cette photo. Et il va aider la rébellion à l'emporter. Je crois qu'on ne sait pas à la fin quand même si la rébellion l'emporte ou pas. Mais enfin, il va faire cette photo. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Et donc partout dans les rues, il vit, elle vivait avec la photo du gars qui tient le journal du jour. Et voilà. Et donc voilà. Et c'était un film formidable. Et donc 40 ans après, c'est ça, hein, ouais. Il racontait très très bien ce qu'était la vie d'un grand reporter, alors très romancé à l'américaine, mais très très bien. Et je me suis dit, tiens, je veux faire ça. Voilà.
Super. Vous aviez quel âge?
Et donc, ça collait bien avec mes capacités. J'ai passé le concours d'une école de journalisme. Ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai passé à l'époque, mais je crois que ça existe encore. Bon, c'était une autre époque. Hein, on pourra en parler. Le monde était quand même beaucoup plus ouvert. Et puis, il n'y avait pas des... Enfin, bon, bref. Et donc, j'ai passé le concours d'Europe 1. Europe 1 a organisé un concours entre les écoles de journalisme que j'ai gagné. Et voilà, quoi.
Ça consistait en quoi, du coup, ce concours?
Ah ben, c'était très opérationnel. Hein. Alors pour le coup, c'était une journée. Faut que je me souvienne, mais il faut que vous fallait, fallait que vous réalisiez un reportage. Ils vous donnaient, j'en sais rien. Je sais pas, n'importe quoi, la grève de, enfin, prendre le bus à Paris ou j'en sais rien. Alors, j'ai toujours pensé d'ailleurs que quand vous étiez parisien, vous aviez un sacré avantage quand même, parce que moi, je connaissais tout, quoi, de Paris, ouais. Par rapport à ceux qui venaient de province. Et puis ensuite, vous faisiez un flash, et puis vous rédigiez un papier sur Dépêche, hein. Bref, vraiment le boulot qu'on allait vous demander quand vous alliez entrer, dans la radio, ils voulaient vraiment des gens opérationnels, quoi.
Voilà. Ouais. Et donc là, du coup, vous avez été sélectionné, donc jour de fête, j'imagine.
Et donc là, du coup, ah oui, bien sûr, ah oui, jour de fête, oui, ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, jour de fête, et avec d'ailleurs, peut-être qu'elle s'en souvient, mais l'une des journalistes, en fait. Donc vous êtes toujours un petit peu stressé dans ces cas-là, et je me souviens quand je faisais mon flash, donc vous faites votre flash, vous avez ce qui s'appelle la régie derrière vous, vous avez une grande vitre et vous voyez la régie, et là il y avait une alors jeune journaliste mais qui me regardait et qui à un moment t'es un peu stressé, fait comme ça me lève le pouce et fait franchement tu te débrouilles bien, et on a été et ça m'avait voilà et on avait été boire des coups ensemble après et voilà ça avait été très sympa,
c'était parti. Et là vous du coup vous étiez grand reporter notamment
d'abord, vous êtes d'abord tout petit reporter,
ouais.
Vous faites vraiment alors ce qu'on appelle les chiens écrasés, vous faites alors ce qui s'appelait à l'époque Ronnie Sous-Bois, ça c'était vraiment une sinécure, c'est-à-dire que vous alliez donc à Ronnie Sous-Bois dans le PC de la gendarmerie pour rendre compte des accidents de la route et des bouchons, etc. Le sujet, c'est que c'était pas Waze, et que donc vous parliez d'accidents qui avaient eu lieu 3 heures avant que vous en parliez et de bouchons qui étaient le plus souvent terminés au moment où vous en parliez. Voilà. Et vous passiez la soirée là. C'était les soirées du dimanche soir, évidemment, du vendredi soir et du dimanche soir.
Ouais.
Voilà, bah vous faites vos armes, quoi. Voilà.
C'est ça. Oui, de toute façon, il faut passer par là pour pouvoir.
Exactement. Et puis après, comme toujours, il faut un coup de chance. En l'occurrence, moi, ça a été le 2 août 90. Donc Saddam Hussein envahit le Koweït et au mois d'août, le 2 août 90, bah, il y a personne dans la rédaction que moi.
Ouais.
Et donc, je suis à Europe 1 depuis 2 petites années parce qu'il y avait eu le service militaire. Même pas d'ailleurs. Et ben, il y a que moi, donc j'y vais quoi. Je saute dans l'avion, j'y vais. Et là, ça s'est bien passé et ça s'est enchaîné. Voilà.
C'est fou de voir. J'ai interviewé Philippe Manœuvre et lui racontait aussi que ce qu'a fait son petit le petit truc en plus, c'est que c'était le seul à parler anglais dans la rédaction. Et en effet, parfois ça. Alors évidemment qu'il y a le talent derrière parce que si vous n'aviez pas été bon.
Non. Alors c'est à ce moment-là, c'est pas du talent. Oui, enfin le talent ça viendra après, mais là, ce qu'on dit toujours, la chance ça se provoque, ouais. Et en l'occurrence, oui, c'est-à-dire que on était un tout petit groupe de et on y passait nos jours et nos nuits à la rédaction. C'était notre passion absolue. Ouais. C'est-à-dire que quand même vous étiez là au moment où ça se passe. Voilà. Et s'il y avait eu un lit de camp, j'aurais dormi dans la rédac d'Europe 1. C'était un rêve devenu réalité, et donc j'allais au bout. Voilà. Et donc c'est ça aussi quand même.
Et quand vous avez dit, donc là à l'époque vous aviez moins de 30 ans quand vous avez dit.
J'avais 25 ans.
Quand vous avez dit à votre famille que vous partiez au Koweït, ils ont réagi comment ?
Ma famille était très limitée. Elle était limitée à ma pauvre maman qui a réagi comme une maman quand son fiston lui dit qu'il va faire la guerre. Donc voilà, oui, elle était inquiète. Mais d'abord, elle s'est rendue compte très vite que c'était pas une vraie guerre, enfin, en tout cas dans sa première phase. Et puis ensuite, quand ça a été une vraie guerre, ma foi, voilà, c'est la vie, quoi.
Parce que du coup, vous avez passé beaucoup de temps sur le terrain à l'époque.
Ah oui. Ah je sais pas si alors vous étiez pas né.
Si, j'étais née. J'étais pas très très vieille, mais en 90, le 2 août, c'est le jour de mon anniversaire. Mais je suis née le 2 août, mais 83, donc j'avais 7 ans.
Et oui, parce qu'il y a eu, alors d'ailleurs c'était biblique, hein, il y a eu 40 jours, 40 nuits de bombardement. Alors d'abord, il a fallu que, donc 2 août, vous avez des tas de négociations, machin, etc. et tout. La guerre démarre début janvier, je crois que c'est le 13, je suis plus tout à fait sûr. Et là, vous avez un mois et demi, 40 jours, hein, je crois, j'ai ça en tête, de bombardement intensif. Avant le déclenchement de l'offensive terrestre. Donc oui, tout ça nous a amené très très loin, absolument.
Ouais. J'en ai parlé, vous la connaissez peut-être, Hortense Aran, Elle a été c'est une bonne invitée pour vous. Hortense, elle a été reporter de guerre à la BBC. Après, bon, elle a arrêté le journalisme et aujourd'hui, elle a monté We Trade Local et Fleur d'ici. Elle a pour ambition de révolutionner le commerce mondial. C'est une belle ambition. En fait, elle a commencé avec les fleurs.
C'est ça, les entrepreneurs. Bah, Elon Musk veut aller sur Mars et elle veut.
Bah oui, c'est.
Et je pense que c'est beaucoup plus utile de révolutionner le commerce mondial que d'aller sur Mars d'ailleurs.
C'est sûr. Donc voilà. En fait, elle a commencé avec les fleurs en disant que ça ne faisait aucun sens d'offrir des roses à la Saint-Valentin, ce qui, d'un point de vue écologique, c'est en effet c'est très pertinent. Et du coup, bon, elle a raconté aussi qu'à l'époque où elle a été reporter de guerre, où elle a vécu des trucs absolument fous, et elle s'est dit en fait, je peux pas faire vivre ça à ma famille, en fait, cette inquiétude en étant sur le front. Et donc finalement, elle a, entre autres pour cette raison-là, elle est sortie du terrain.
Enfin, du terrain. Moi, je suis sorti du terrain à la naissance de mon premier enfant. Voilà, c'est assez simple. Hein, à ce moment-là, ma femme était grand reporter aussi. Enfin, okay. Voilà, donc c'était simple. on partageait la même passion. Ce qui est, je pense, assez indispensable d'ailleurs. Et quand vous parliez de l'entourage qui sert à la voie de la réussite, c'est clair. Et ensuite, on a décidé de mettre quelqu'un au monde. Et à ce moment-là, il faut l'écouter, quoi. Donc, faut assumer ses responsabilités. Ouais. On en était tous parfaitement conscients quand on a fait ce choix-là. Donc voilà.
Et du coup, quand vous avez votre premier enfant, quel a été votre poste? Du coup, vous êtes revenu.
J'avais des patrons qui n'attendaient que ça, que j'arrête, parce que ils pensaient que j'avais un. D'ailleurs, ils s'étaient pas gourés, hein, que j'avais un potentiel de chef, en fait, voilà, de patron, de présentateur, de tout ça. Et comme me le disait mon grand maître Jérôme Bellet, des reporters, j'en trouve partout sous les pieds des chevaux. Des dirigeants ou des bons présentateurs, c'est beaucoup plus compliqué. Il avait raison. Ouais. Et en plus, c'est un métier d'énergie. Et c'est un métier d'énergie, d'étonnement, de découverte. Et vous êtes assez vite, alors le terme est un peu pédant, mais vous êtes assez vite mitridatisé. C'est-à-dire que vous tombez assez vite, moi, c'est ce qui commençait à m'arriver, dans une forme de banalisation de ce que vous voyez. Voilà. Ouais. Et donc, alors il y en a non, hein, notamment les photographes. Hein, il y a des photographes incroyables, Laurent Van Der Stock, dont j'ai eu Patrick Chauvel, dont j'ai eu la chance de croiser la route, qui sont des gars mais invraisemblables, qui ont cette capacité de à chaque fois, parce que de s'indigner, parce que le grand reportage, on pourra peut-être en reparler, d'où Under Fire, il faut que ce soit un combat, il faut que ce soit une indignation. C'est pas vrai qu'on raconte ce qui se passe, ça existe pas, ça jamais. Et qui ont cette capacité-là. C'est rare quand même.
Ouais. Donc là, du coup, vous devenez rédac en chef chez Europe 1 ?
Alors, du coup, d'abord, un peu de rédaction en chef. Enfin, en fait, je compose la matinale et puis assez vite, je me suis mis à la présenter. Voilà.
Ouais.
Donc ensuite, j'ai fait 18 ans de présentation de matinale jusqu'il y a 2 ans.
Donc réveil 4h du mat pendant 18 ans.
Alors non, il y a deux types de non, c'est plutôt que ça. Quand vous faites une matinale d'information généraliste, donc Europe 1 ou aujourd'hui si vous travaillez à BFM TV et tout, non, c'est plutôt 2h du mat le réveil.
OK.
Voilà. Et pour BFM Business, pour l'économie, oui, là c'était plutôt 3h et demie parce que les informations de la nuit en économie, il y en a quand même très peu.
Ouais.
Globalement après la clôture des marchés, tout est dit. Et clôture Wall Street 22h, donc il est assez rare que vous ayez des surprises au milieu de la nuit. Il y en a eu quelques-unes, hein, la mort de Christophe de Margerie, le patron de Total. Il y avait eu, alors là aussi c'était il y a longtemps, mais la fusion entre Alcatel et Lucent, ce qui avait été annoncé au milieu de la nuit. Voilà, vous pouvez avoir des trucs comme ça, mais c'est très très rare. Ouais. Donc vous pouvez arriver un peu plus tard quand même.
Et pour une vie de famille, c'est pas trop compliqué du coup.
Au contraire. Alors ça c'est, sur la matinale, c'est biologique. C'est comme, je sais que vous aimez beaucoup les sportifs. Ils ont des avantages biologiques. Matinalier, c'est pareil. Soit votre corps l'accepte, soit votre corps ne l'accepte pas. S'il l'accepte pas, c'est très très dur. Ouais. Et c'est comme ça que vous voyez, parce que c'est prestigieux de faire une matinale, donc vous voyez des gars qui vont tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, et après ils n'y arrivent plus, quoi, ils calanchent. Si votre corps l'accepte, c'est-à-dire que si vous avez la capacité, en gros, de vous endormir n'importe où, n'importe quand, et de récupérer assez vite, c'est ça, en fait, le sujet. Alors là, c'est fantastique, notamment quand vous avez des enfants, et des petits-enfants. Votre production, donc le moment qui est vraiment absolument indispensable, il s'arrête. Alors, soit, ça dépend, mais quand mes enfants étaient tout petits, ils s'arrêtent à 8h du matin. À 8h30, vous êtes à la maison, vous avez fini de bosser, vous les emmenez à l'école, vous rentrez, vous faites une petite sieste parce que votre corps le permet, vous allez les chercher, vous déjeunez avec eux. Enfin, c'est extraordinaire. Et ensuite, vous êtes dans une autonomie totale pour programmer votre journée, parce qu'évidemment, il faut préparer la matinale du lendemain, mais vous pouvez le faire dans une autonomie totale. Et donc, complètement, en fait, en lien avec vos enfants. Ce qui, parfois, d'ailleurs, est un peu pesant, parce que c'est pas toujours non plus nirvana que de s'occuper de ses enfants. Mais enfin, vous êtes, en gros, le truc, c'est que vous êtes là s'ils ont vraiment besoin de vous, quoi. Voilà.
Ouais. Ouais, ça permet de c'est pas ce qu'on peut imaginer en mode
Par rapport, vous avez fait du marketing, par rapport à tous les postes, parce que quand même vous occupez un poste à très haute responsabilité et vous avez un salaire qui correspond à ce poste à très haute responsabilité, ouais. Par rapport à tous les postes comparables dans quelques business que ce soit, je crois qu'il y a pas d'équivalent, voilà.
Ouais, c'est en effet, il faut que le corps l'accepte.
Il faut que le corps l'accepte, exactement.
Ouais. Et qu'est-ce qui a fait du coup que vous avez quitté Europe 1?
Alors le rhinocéros a rencontré un autre rhinocéros et a décidé que, enfin non, un rhinocéros, c'était un gros rhinocéros, disons que quelle année, je sais plus, dites donc, 2004, c'est Jean-Pierre Elkabbach qui reprend la direction d'Europe 1, et Jean-Pierre Elkabbach, représente des choses qui me plaisent pas, et donc voilà. Et comme c'était réciproque, on s'est pas séparé d'un commun accord, parce que j'avais 16 ans d'Europe 1, donc j'ai essayé de les traîner au prud'homme, mais j'ai perdu.
Ah.
Vous êtes un des rares salariés qui a perdu au prud'homme. Mais j'y avais pas de grandes convictions. Non, c'est marrant. Alors ça, c'est intéressant, tiens, pour la vie d'entreprise. Jean-Pierre Elkabbach débarque. En gros, l'idée, c'est qu'il fallait mettre Europe 1 en ordre de bataille pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Rhinocéros, hein. Et donc, il me met au placard. Être au placard, c'est très, très dur, franchement. Hein. Surtout dans une rédaction que vous avez quasiment dirigée.
Ouais.
Les gens vous regardent, mais qu'est-ce que tu fous? Vous n'avez plus rien à faire. C'est très compliqué hein, comme situation. Et donc, je décide de partir. Et quand on arrive au Prud'homme, l'avocat d'Europe 1 dit « Donc, Monsieur Soumier nous décrit les mines de sel, etc. Moi, j'ai fait le compte, ça n'a duré que 16 jours ouvrés. » Quoi ? En fait, c'est un tel enfer que dans mon esprit, ça avait duré au moins 3 mois. Mais non, 16 jours ouvrés. Donc là, les prud'hommes ont beau être sensibles à la douleur alors on parlait pas encore de harcèlement moral à l'époque, mais non, donc j'ai perdu. Alors l'avocat dit, on fait appel, c'est pas possible, machin et tout. Je dis non, laissez tomber, ça va. Alain Veil m'avait appelé, il y avait BFM Business qui démarrait, j'avais envie de me lancer dans cette aventure. C'est bon, on tourne la page.
Ouais.
Et puis, ça arrangeait, pour tout vous dire, ça arrangeait un peu, Next Radio TV était encore tout petit à l'époque, BFM TV existait à peine, ça arrangeait quand même bien, Alain Veil, qu'on soit pas en conflit avec Europe 1. Et
ouais.
Voilà.
Donc, ouais, c'est sûr, ouais. Ce genre de choses, c'est jamais très bon.
Exactement.
Ouais, c'est clair. Et donc là, du coup, vous arrivez chez BFM TV, sachant que vous ne connaissez rien à l'économie.
Voilà. Alors, j'arrive, comme vous le dites, j'arrive à BFM TV. En fait, BFM TV n'existe pas encore tout à fait.
Okay.
Et donc, Alain Veil me dit, vous allez faire BFM Business. Et puis, quand on sera prêt, vous viendrez faire la télé avec nous. Voilà. Et donc, je découvre ce monde de l'entreprise, de l'économie, qu'effectivement, je connais absolument pas. Et il me séduit énormément. Et quand BFM TV est prête à démarrer, enfin, à vraiment partir sur des chapeaux de roue, je dis à Alain Veil, non, je vais rester à faire BFM Business. Ce qui le contrarie énormément. Et donc, vraiment, ils ont essayé de tout faire pour me convaincre, mais non, j'avais compris que, en fait, il y avait là, Je vais vous expliquer, en fait, vous retrouviez une capacité de faire du grand reportage sans partir aux quatre coins du monde. Voilà. Parce que l'aventure entrepreneuriale est une aventure exceptionnelle.
Ouais.
Et donc, vous pouviez, en fait, vous receviez les aventuriers dans les studios et vous racontiez cette aventure. Et c'était après, donc... Oui, 20 ans de journalisme classique, c'était une manière de se réinventer qui était formidable. Voilà. Et pour le coup, je ne l'ai pas regretté.
Et comment vous avez fait du coup, parce que bon, bah, il a fallu se former en tant que purement de la formation,
ouais.
Pour apprendre du coup tous les codes.
Ouais. Bah alors la formation, bah ça c'est. Je suis un gros travailleur, voilà. C'est ça aussi. J'ai fait des études, j'ai fait Hippocagne, Cagne, enfin des trucs assez exigeants. J'étais interne en Cagne même. Enfin, c'est vraiment des moments. Et donc ça, vous gagnez des réflexes. Donc là-dessus, je me suis remis au boulot, quoi. Et puis ensuite, les codes, bah, c'est assez simple. C'est que à un moment, vous parlez plus que de ça. Ça devient une passion. Et donc, voilà, petit à petit, ça se fait. Hein. Ça a mis, je sais pas combien de temps ça a mis, mais petit à petit, ça se fait. Voilà.
Parce qu'à 40 ans, c'est le métier de journalisme avec un contenu complètement autre. C'est vraiment savoir se réinventer.
Ouais. Oui. Mais alors, d'abord, j'avais pas trop le choix quand même, hein, parce que j'étais quand même dehors et j'ai quatre enfants, moi. Hein, donc, à un moment, fallait quand même, fallait assurer. Donc, j'avais pas trop le choix. Et puis, ce monde de l'entrepreneuriat, ils trouvent tous parfaitement normal et assez séduisant, finalement, quelqu'un qui débarque pour se réinventer. Ils le font tous. Donc, vous faites de chouettes rencontres, il y a des gens qui vous aident, ils sont très, très... Il y a une immense mansuétude pour toutes les erreurs que vous pouvez faire. Voilà. Ouais. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Mais au début, évidemment, quoi. Donc, ouais. Non, ça s'est très, très bien passé. Très, très bien passé.
Et dans votre entourage, il y avait des entrepreneurs ?
Non, pas du tout.
Ouais.
Enfin... Non, pas du tout, pas du tout.
Et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier ?
Bah, mes parents, ils étaient cadres en entreprise, quoi. Mon père, il avait démarré ingénieur électricien, et puis il avait basculé du côté des fonctions achats. Il était acheteur. Et puis ma mère, elle a fait tout un tas de boulot autour de, on va dire, assistante de direction, fonction support, enfin voilà, des choses comme ça, quoi.
Donc loin de l'entrepreneuriat.
Oui, très très loin. Ouais. Ils étaient dans des grosses boîtes. Oui, c'était vraiment des salariés de grosses boîtes. Oui, tout à fait.
Et du coup, vous, à partir de quand ça a commencé à vous titiller l'entrepreneuriat pour vous ?
Jamais. Là aussi c'est un peu contraint et forcé. Non, je continue à dire que je suis pas entrepreneur, moi. L'entrepreneur c'est une prise de risque absolue. Ce dont on va parler, la Bismart, la prise de risque est ultra limitée. Je suis pas entrepreneur. Le sujet, c'est qu'à un moment, au bout de 14 ou 15 ans de BFM Business, alors c'est disons que petit à petit, j'ai pris de plus en plus de responsabilités, et à un moment, je me suis retrouvé avec trop de responsabilités sur la tête.
Pourquoi trop ?
Alors, on revient sur le rhinocéros, c'est-à-dire que je continue à penser que j'ai raison, et c'est pour ça qu'on a fait Bismart. Je pense qu'il y avait un chemin très précis à emprunter pour BFM Business. Et ce chemin, il fallait le débroussailler, il fallait... En gros, pour résumer, je pense que la seule valeur aujourd'hui pour de l'audiovisuel économique en France, parce qu'on a un petit marché, c'est pas le cas aux États-Unis, c'est d'aller vers quelque chose de quasiment B2B.
Ouais.
C'est d'aller vers quelque chose qui s'approche de la presse professionnelle. Voilà.
Mmh.
Et donc, très B2B, très exigeant, avec un système de financement par partenariat. Et ça, c'est pas la voie que voulait suivre Alain Veil.
Ouais.
Et pour de bonnes et de mauvaises raisons. Et donc, il a fallu que je lui démontre que j'avais raison. Donc, Alain Veil, lui, est un entrepreneur. Donc, c'est, je donne ma chance au produit. Donc, et puis Soumier, ça se passe bien. Voilà. Donc, on avance. Mais petit à petit, il fallait que je fédère toute l'entreprise dans ma direction. Voilà. Alors, le rhinocéros a beau avoir certaines capacités. Bah, d'abord, bah, il y a des livres. Donc, les convaincre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il y a des gens qui ne veulent pas vous suivre, mais qui veulent même, enfin, dont en fait, le par exemple, parce qu'on peut faire en toute transparence, quand vous êtes dans cette logique, donc, encore une fois, il faut que toute l'entreprise soit alignée dans cette direction. Et notamment, quand vous faites de l'audiovisuel, ben, il y a la déclinaison web qui est très importante. Alors, quand j'ai commencé le combat pour prendre le contrôle du web, c'était il y a 4-5 ans, et il y avait encore, et je crois que maintenant ça c'est moins vrai, mais il y avait encore une dichotomie étonnante entre, vous preniez le journal Le Monde par exemple, entre la version, on va dire, papier, alors print, mais même le print sur le web, hein, du journal Le Monde, et puis la rédaction web, ce qu'on pouvait lire sur le web en termes de papier qui ne serait jamais dans la version print, mais il y avait un monde parfois, enfin des trucs incroyables. Et je regardais ce qu'écrivaient les jeunes journalistes web pour Le Monde, et je me disais, mais comment la rédaction en chef du Monde tolère de tels trucs? Bon. Et pour BFM Business, c'était pareil. On peut prendre un exemple, par exemple, quand il y a eu toutes les polémiques autour du salaire de Carlos Ghosn, il y a un bon moment. BFM Business, sa vocation, c'est de défendre un, alors, pour le coup, un entrepreneur, enfin, en tout cas, un capitaine d'industrie qui est en train de construire le premier constructeur automobile mondial. Mais sur le web, il y a des jeunes gars, et puis des jeunes gars qui font la course au clic, et qui donc, eux, bah, vont aller prendre le point de vue totalement inverse. C'est quoi l'expression de BFM Business? C'est pas possible. Et donc, bah, il a fallu rentrer en guerre avec cette rédaction web. En partie gagner la guerre, dire à vos équipes, vous allez être full journaliste, radio, télé et web, et vous allez voir, ça va marcher. Et là, bah, là, vous rentrez dans le management du changement, et un rhinocéros, c'est pas très bon pour le management du changement. Voilà. Ah, il aurait fallu beaucoup plus de... Oui, bah, le management du changement, comme me l'a dit un grand patron, c'est un métier en soi. Et là, j'ai échoué. Et donc, à ce moment-là, bah, la masse de responsabilités que vous avez, l'ensemble de l'énergie que vous mettez pour entraîner l'entreprise dans cette direction, tout ça, à un moment, ça fait trop, quoi.
Ouais, voilà. Ça fait une grosse bulle.
Ça marche plus. Ouais. Ça marche plus. Et comme vous avez concentré toutes les responsabilités sur vous, vous pouvez plus redéléguer derrière. La marche arrière est très compliquée à faire. Vous allez redéléguer, vous allez dire, OK, je laisse tomber le web. Bon, mais ça veut dire que, enfin, ce que vous aviez martelé, quoi, finalement, vous avez tort. Ben non, je continue à avoir raison, simplement, on peut pas le faire. Non, c'est pas possible, ça marche pas. Voilà. Ou vous arrêtez de diriger la rédaction en continuant à présenter la matinale. Oui, mais le directeur de la rédaction, sans arrêt, vos équipes, enfin, le type, forcément, il va faire différemment et sans arrêt, ce sera rapporté à ce que vous faisiez. C'est injouable.
Ouais.
Donc, il faut partir.
Donc là, du coup, un jour, vous allez voir Alain Veil en disant «
C'est fini,
je m'en vais ». Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que vous vous êtes dit « Allez, c'est aujourd'hui où j'y vais ».
Oui, c'est que bah, c'est comme vous. Hein, c'est un... Alors moi, c'était très léger, mais c'est une forme de burn-out, oui. C'est-à-dire que je suis parti en vacances au ski, sans les enfants, pour la première fois depuis 20 ans. Et pendant cette semaine qui aurait dû être une semaine de rêve, je n'avais que BFM Business en tête. J'ai pas pu m'en extraire. Et donc ça, c'est bah ça, il faut pas, quoi. Voilà. Et donc je suis rentré et j'ai dit stop, c'est fini.
C'est fou de voir le nombre de personnes que j'interviewe qui me disent que c'est pendant les vacances où il y a une prise de conscience. C'est.
Bah si vous arrivez pas à décrocher, ouais. Ça veut dire que vous arrivez pas à régénérer votre énergie mentale. C'est... Et puis, vous savez que vous rentrez, vous êtes encore plus usé que quand vous étiez parti, vous avez plus d'idées, tout le monde vous énerve. Là, le rhinocéros se met en colère, et le rhinocéros se met en colère, il se met à faire n'importe quoi, voilà. Et donc, ça peut faire du dégât, ça fait du dégât sur les gens que vous aimez, ça. Enfin, je parle pas à mon entourage, hein, mais je parle dans la rédaction.
Ouais, bien sûr.
Parce que quand vous dirigez des gens pendant une dizaine d'années, il y a des liens d'affect qui se créent forcément. Voilà quoi.
Donc là, vous en parlez avec votre femme en disant, écoute, je vais leur dire que c'est fini.
Ouais, exactement. Dimanche soir, je réunis tout le monde et je dis, voilà, lundi matin, je vais leur dire que c'est fini. Ma femme fait, mais tu fais quoi d'autre? Je dis, j'en sais rien. Ah Et les enfants, qui sont grands, hein, font tous, ouais, vas-y, papa, quoi. En fait, les enfants vous disent que t'es devenu chiant, quoi. Donc, ouais, il faut que t'en sortes, quoi. Voilà.
J'en parle souvent parce que quand j'ai fait mon burn-out, le week-end de l'ascension où j'ai décidé que j'allais m'arrêter, mon mari a regardé mes enfants, bon, qui sont petits, les miens, ils ont 6 et 9 ans, donc ils en avaient 1,5 de mois à cette époque-là, et il les a regardés en disant, vous la trouvez comment, maman, en ce moment? Alors, je me suis pris une claque d'une violence absolue. Et en fait, c'est fou de voir, en effet, que je dis souvent, ouais, c'est les enfants, c'est le meilleur des miroirs, en fait.
Oui, enfin, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr. Alors là, c'est sûr que quand vous commencez à partir en vrille, vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, ouais. C'est ça la leçon. Il faut faire très attention à ça. Alors, on va dire, ouais, il faut des gens qui vous disent la vérité. Simplement, ça se fait, c'est par petites touches que ça se fait.
Ouais.
Donc, il n'y a pas un moment, c'est compliqué, mais en tout cas, vous ne vous en rendez pas compte.
Ouais, parce que même si, pour le coup, je l'ai vécu, hein, où mon entourage proche m'a dit, Charlotte, il faut que tu t'arrêtes, mais je n'avais pas envie de l'entendre, en fait.
Non, moi, on ne m'avait pas dit ça.
Non.
Bah non, parce que, puis, vous tenez quand même la baraque, quoi. je vais vous dire, c'est un sujet de fierté depuis. C'est le contre-coup de concentrer tous les pouvoirs. C'est que au moment où vous dites je m'en vais, tout le monde fait mais comment on va faire? Et donc, pour reparler de Carlos Ghosn, je dois dire qu'il y a quelque chose de quand même très intéressant en termes de management, c'est que donc il tenait absolument tout et il s'en va et tout s'effondre comme un château de cartes.
Ouais.
C'est quand même très spectaculaire. Hein. Mmh. Enfin, même si vous n'êtes pas familier de l'industrie automobile, je pense que tous vous savez à quel point Renault et Nissan se sont littéralement liquéfiés, effondrés un château de cartes.
Ouais.
Quand Carlos Ghosn est parti. Pourquoi? Alors ça c'est intéressant parce que il était focalisé mais totalement sur l'opérationnel, totalement, et qu'à aucun moment, et je pense que ça ne le faisait chier, ça l'intéressait pas, il n'a voulu créer une culture commune dans cette entreprise, il n'a voulu bon voilà. Et donc mon grand sujet de fierté, pour être très arrogant, c'est que donc je suis parti et que BFM Business continue remarquablement. Alors c'est différent évidemment, heureusement que c'est différent, mais je crois que sur les fondamentaux, alors ils ne prendront pas le chemin que moi je voulais prendre, et peut-être que finalement ce chemin, je continue à penser que non, mais enfin peut-être qu'il y a un autre chemin à prendre, ok, mais sur les fondamentaux, l'entreprise reste solide, ça tourne, ça délivre, je peux même le raconter. Donc, évidemment, un nouveau directeur de la rédaction a débarqué, un nouveau présentateur de la matinale. Ils ont commencé par changer notamment l'organisation de la matinale. Bon, j'écoutais ça parce que ça m'intéressait de savoir ce qu'ils faisaient. Je suis parti sans aucune rancœur. Hein. Tout va bien, donc il n'y avait aucun problème. Et donc, tiens, ils changent ça. Ouais, bon, d'accord. Ah, tiens, ah bon, d'accord. Puis, petit à petit, j'ai vu revenir. Finalement, tout ce que j'avais fait. Vous savez, c'est comme vous achetez un appartement où vous commencez et il y a des propriétaires qui y habitent depuis longtemps et vous allez commencer par « Ah, pourquoi ils ont mis un truc là ?» Et puis, petit à petit, vous vous rendez compte que vous refaites ce que faisait le roi, parce qu'il n'y avait pas 36 façons de le faire. Donc, voilà. Alors, ils ont changé des choses, évidemment, hein, mais globalement, le socle, il reste à peu près le même. Donc je suis assez content.
Parce que ça marchait donc.
Bah oui, et puis ça veut dire que quand même les équipes étaient là où elles devaient être, que les gens compétents étaient là où ils devaient être, que ceux pour qui j'avais une grande estime, bah, j'avais raison d'avoir cette grande estime pour eux parce que ils tiennent la route, enfin voilà quoi.
Ouais.
Donc c'est pas mal.
Ouais, c'est chouette.
Voilà, c'est à l'arrivée, c'est quand même un sujet de fierté. Ouais. Voilà.
Du coup, le lundi matin, donc vous allez voir Alain Vail en disant je m'en vais.
Ouais. Et comme c'est un entrepreneur extraordinaire, il s'en doutait.
Ouais.
C'est-à-dire que il a fallu prendre rendez-vous quand même. C'est Alain Vail à l'époque. Maintenant, Alain Vail, il est directeur général. Il est PDG d'SFR Europe, enfin quelque chose comme ça, je crois. Hein. Donc bon, quand même. Alors il s'est mis en cap pour me recevoir le plus vite possible, mais je crois que c'était pas, ça devait être le mardi, quoi. Vous voyez, voilà. Et donc c'est le matin. Hop, j'attends dans l'antichambre et tout. Il y a le cadre dirigeant de Next Radio qui passe dans le couloir, qui me dit ah tu vas voir. Alain m'a dit que tu voulais le voir. Je dis bah oui. Il m'a dit à mon avis c'est pas pour me parler de l'organisation de la matinale. Donc il avait compris qu'il y avait un truc. Voilà. Écoute, il a été parfait quoi, comme il a tout le temps été parfait Alain Vail avec moi. Hein, donc voilà, il a mesure du truc, c'est-à-dire c'est intéressant hein, parce que je lui dis pourquoi je m'en vais, etc. et tout. On a une discussion assez intime ensemble, ce qui est très très rare. Alain Vail comme moi, on est très fermé, donc voilà. Et là, il me dit, Stéphane, on est d'accord, on est des grandes personnes, il n'y a pas de retour en arrière. Je dis, non, Alain, il n'y a pas de retour en arrière. Et en fait, lui, ensuite, va essayer de me faire revenir sur ma décision. Mais pour moi, non, il n'y avait pas de retour en arrière.
Ouais, tu savais que c'était fini.
C'était fini, et alors, j'ai même brûlé les vaisseaux, c'est-à-dire que... donc, il me dit, c'était mars, mois de mars, et il me dit, écoutez... Ça va être évidemment un choc. Donc, je vous demande d'abord de rester jusqu'à la fin de la saison. Ce qui, pour moi, était... parce que quand vous partez, une main devant, une main derrière, quand même, j'avais rien, pas un projet, rien. J'avais juste envie de dire stop. Bon, je savais que j'avais une petite notoriété, que là, mais quand même. Avoir un petit levier de négociation, c'est pas mal. Donc... oui, on va voir Alain, on va négocier. Voilà. Donc voilà.
Je vais être arrangeant.
Non, faut surtout pas dire ça quand vous commencez la négociation.
Oui.
La négociation doit commencer par un non. Doit commencer par vous n'y pensez pas. Mais vous avez dans la tête que tiens, j'ai un levier. Voilà. Mm-hmm. C'est Bernard Tapie qui dit dans le film formidable de Claude Lelouch. Comment s'appelle ce film ? Homme-femme mode d'emploi, je crois. Quand vous avez quelque chose à vendre, faut commencer par mettre devant le panneau vendu. Hein, voilà. Donc j'ai fait une incise, mais pourquoi ? Oui. Et donc, on va voir, on négocie. Et ensuite, il y a eu un peu de turbulence pour d'autres raisons dans la rédaction. Et à ce moment-là, en fait, j'ai brûlé mes vaisseaux. J'ai dit que j'allais partir à la fin de la saison. Voilà. Donc j'étais sûr.
La saison, ça s'arrête quoi ? Ça s'arrête en juin ?
Le 12 juillet, je me suis arrêté le 12 juillet. Là, il a tiré jusqu'au bout, là.
Et ça va, ça n'a pas été trop dur, parce que du coup, quand on s'est compare...
C'est une période étrange.
Ouais.
Très, très agréable. Très agréable, parce qu'en fait, il n'y a plus d'enjeux. Donc, vous avez... Franchement, est-ce que dans sa tête, il y avait ça pour me faire regretter ? Mais limite, si ça vous arrive, si vous êtes... Vous continuez à faire votre boulot, donc c'est quand même le boulot que vous aimez, mais il n'y a plus aucun enjeu parce que l'affaire tourne, ça marche, ça fonctionne, vous devenez super agréable avec tout le monde, votre management se transforme totalement. Non, c'est super agréable. C'est super agréable. Vous avez moins la niaque, oui, c'est-à-dire vous allez se battre pour tel invité exceptionnel, etc., machin, moins, d'accord. Mais quand même, non, ça a été une période très, très agréable.
Voilà. Et comment, du coup, comment ça s'est passé ? Donc là, il fallait savoir ce que vous alliez faire après.
Ouais.
C'était un vrai sujet, forcément.
Ouais. Alors, oui et non, parce que droit social français, ouais. Rupture conventionnelle, chômage derrière, il n'y avait pas encore eu la réforme de l'assurance chômage. Donc, ça donnait une belle visibilité quand même.
OK.
Bon, et puis, je vais être très franc avec vous, j'avais été très bien payé. Donc, Ça allait. J'avais, on avait fait les comptes. J'avais de la visibilité devant moi. En même temps, je connais l'économie. Et c'est le sujet très important avec le chômage. C'est pour ça que quand on parle du chômage, du contrôle des chômeurs et de toutes ces histoires-là, il y a une méconnaissance des mécanismes du chômage de la part de notamment des responsables politiques qui en parlent, qui est toujours, qui est néfaste au débat. Le problème du chômage, c'est que plus vous allez vous installer dedans, plus il va être difficile d'en sortir. Voilà. Quel que soit votre niveau de qualification. On a tous connu ça, et maintenant, je pense que pour chacun, ça devrait être une réalité, avec le confinement, et pour tous ceux qui ont pu vivre le confinement dans des conditions qui étaient des conditions agréables. Ça a été une addiction, cette histoire. Eh ben, le chômage, ça peut être la même chose. Voilà. Là-dessus, tous les spécialistes du travail sont d'accord là-dessus. Voilà. Donc, j'étais conscient qu'en même temps, il fallait pas que je reste sans rien faire pendant trop longtemps. Et donc là, bah, il se trouve que donc j'avais pas non plus envie de refaire la même chose. J'ai pas. Alain Veil m'avait dit ça tout de suite. Vous allez faire la matinale sur LCI. Non, Alain, non. Ben non, ce sera recommencer la même chose. Enfin, voilà, vous avez fait un burn-out marketing. Vous n'allez pas refaire du marketing. Non, même si c'est pour L'Oréal, même si c'est pour. Enfin, vous voyez. Voilà, ouais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez fait une indigestion. Vous pouvez plus en manger. Donc non, c'était pas ça. J'allais pas dire comme d'une grande boîte. J'ai eu des propositions. J'allais pas faire ça non plus. Et c'est là que un jeune entrepreneur qui s'appelle Loïc Vuichard m'a appelé en me disant est-ce que vous avez envie, je me souviens très bien de son premier message, est-ce que vous avez envie de vous associer à une start-up en pleine croissance qui a déjà 3 ans de carnet de commandes? Bah ouais, fun. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'animer des cercles confidentiels de cadres dirigeants qui sont tous en transformation et en mutation. Pas mal, effectivement, super intéressant. Et donc, je vais assister à certains de ces cercles et je dis banco, et je dis à Loïc, ok, on part ensemble. Et donc, c'était parti. Et donc, ça me permettait d'être indépendant, totalement indépendant, et d'animer ces cercles. Donc, ça veut dire que vous aviez globalement un gros client qui assurait le fonds de commerce. Vous pouviez travailler, très important. Le sentiment d'isolement est aussi sans doute le plus difficile pour, on va dire, un manager en transition, parce que c'était ça que j'étais. Et là, vous aviez, je pouvais, alors c'était pas full time, hein, c'est pas un full time job, mais je pouvais au moins 2-3 fois par semaine plonger dans une équipe, travailler avec une équipe. En plus, une équipe jeune, enthousiaste, etc. Voilà. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher le plus vite possible. C'est vraiment le conseil que je donnerais pour la transition. C'est même si c'est pas idéalement le boulot où vous vous dites c'est pas, mais allez-y, prenez-le, faites le truc en indépendant, en étant très transparent avec ceux avec qui vous le faites. Voilà, c'est pas forcément ça que je vais faire encore pour les 10 ans qui viennent, mais je suis avec vous, vous pouvez compter sur moi. Et comme ça, ça permet d'inventer et de réfléchir tranquillement. Voilà.
Ouais.
Super important. Le sentiment d'isolement est, je pense, quelque chose de compliqué. Peut-être compliqué pour vous, ouais. Charlotte. Voilà.
Bah après, moi, je sais que j'avais tellement été oppressée par mes équipes et par le fait d'être tout le temps avec du monde que j'ai eu besoin de, ouais, d'être toute seule, en fait.
Oui, mais pendant 2-3 mois.
Je m'étais pris le mur un peu trop fort. C'était un peu plus que 2-3 mois, du coup.
Ouais, mais après, quand il faut reconstruire, quand il faut repartir, alors vous pouvez vous challenger avec votre mari, mais c'est pas pareil. Enfin, ouais. c'est vraiment la conviction que j'ai.
Ouais, après c'est sûr que, enfin, clairement, avec l'univers du podcast, je me suis fait des, on va dire, des amis, ou en tout cas des personnes où on se parle quasiment maintenant presque tous les jours. Et du coup, c'est vrai que c'est, enfin, même si pour le coup c'est à distance, c'est top de pouvoir échanger sur son projet, et c'est ce qui fait grandir, quoi.
Bien sûr.
Et quand du coup vous êtes passé, je fais un petit retour en arrière, mais ça va faire un lien avec Bsmart TV. Vous êtes passé du coup de la radio à la télé, même si c'était.
Ouais. Alors ça, c'est une conviction très forte. C'est très facile pour les gens de radio de faire de la télé. C'est très compliqué pour les gens de télé de faire de la radio.
Pourquoi ?
C'est le contraire de ce qu'on croit.
Bah oui, c'est clair, ouais.
Parce que le plus compliqué à gérer, c'est le silence. Ouais. Quand vous faites de la radio, vous apprenez ce que je suis en train de faire là maintenant, à gérer le silence. Et quand vous avez fait des années de radio, des années de, en plus de reportages, des émissions en direct, etc., pooh, il ne peut plus rien vous arriver. Moi, Charlotte, il ne peut plus rien m'arriver quand je fais une émission en direct. C'est impossible. Je suis capable de tenir le crachoir pendant 10, 15 minutes sans qu'il y ait personne et de raconter et de décrire à l'ensemble de ceux qui sont à l'écoute ce qui est en train de se passer, pourquoi on a un problème, comment est-ce que les choses vont se régler, comment est-ce qu'on essaye de les régler, etc. Là, je suis en train de le faire, je pourrais vous le faire pendant, mais ça va être très ennuyeux pour ceux qui vous écoutent. Je me souviens, alors, quand je démarrais, parce que je vais parler d'une star, donc comme ça, ça va intéresser, c'est Denis Brognard, hein, le Denis Brognard de Koh-Lanta. Denis Brognard, c'était un journaliste sportif. Formidable journaliste sportif. Et c'est les Jeux Olympiques de 1988, ou 8 et 4, 12, ou 92. Bon, je ne sais plus, peu importe. Je fais les flashs, et c'est la finale du 200 mètres féminin. Il y avait une championne extraordinaire à l'époque qui s'appelait Merlène Otey, jamaïcaine Merlène Otey, extraordinaire Merlène Otey. 200 mètres féminin, on est dans le flash, Denis, vous êtes... C'était le soir, donc ça pouvait pas être à Séoul. Donc ça devait être, ceux d'après, ça devait être aux États-Unis. Top départ, c'est parti. Denis qui commence et faux départ. Merlène Otey a fait un faux départ. Et un faux départ, quand vous faites un 200 mètres, les gars ont déjà pratiquement couru 60-80 mètres avant qu'ils s'arrêtent et qu'ils reviennent. Mais au pas, vous imaginez même pas à quelle lenteur ils reviennent pour tout récupérer, pour vraiment reprendre l'énergie du départ. C'est un 200 mètres, c'est des courses très, très, très dures. Et là, mon Denis va tenir le crachoir. Je ne sais pas combien de temps a duré ce retour de l'ensemble de ces coureuses dans leur starting block. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut être capable de faire. Et donc, c'est ça que je suis capable de faire. Et Denis Brognard a remarquablement géré ce moment. Voilà.
Donc, du coup...
Pardon, parce que c'était pas pour raconter ce 200 mètres. C'était pour dire qu'à partir du moment où vous savez gérer le direct, après, vous avez juste votre image à gérer à la télé. C'est tout. Bon, bah votre image, bah, c'est comme à la radio. Personne n'aime s'écouter. Personne n'aime sa voix. Personne. Hein, c'est physique, c'est parce que ce que vous entendez depuis que vous êtes bébé, c'est dans votre oreille interne, votre voix. Or, votre voix, c'est pas ça, elle est différente. Et donc, c'est très déstabilisant. Donc, personne n'aime sa voix et personne n'aime son image. J'ai vu, vous avez tous vu des très grands acteurs magnifiques, très, très beaux, qui détestent se regarder. Ils sont obligés, mais ils détestent se regarder. Et ben, la télé, c'est pareil, je crois, pour tout le monde. On déteste se regarder, mais il faut le faire parce que sinon, vous êtes plein de tics, vous vous tout. Donc, vous le faites, c'est très simple à gérer l'image. Voilà, aucun problème. Pour un journaliste de télé qui a pu s'appuyer sur l'image pour gérer les silences, à la télé, vous pouvez vous taire, vous avez l'image. Basculer en radio et devoir tenir le crachoir avec dynamisme, alors ça, c'est une autre paire de manches. Parce que ça, il vous faut des raccourcis cerveau qui sont beaucoup plus compliqués à créer que la gestion de votre image quand vous débarquez à la télé.
Est-ce qu'il y a une question de stratégie? J'ai interviewé Thomas Blard qui disait que lui, donc, il était à la base en radio et en fait, un jour, il s'est dit, moi, dans ma stratégie, il faut absolument qu'on voit ma gueule parce que si on voit pas ma gueule, je vais pas rester. Enfin, voilà, pour sa stratégie de carrière, il a voulu qu'on voit sa gueule.
Ah bah non, mais nous, c'était une stratégie d'entreprise.
Ouais.
Non, nous, c'était un risque considérable pris par Alain Veil. Qui disait, là, pour le coup, il avait totalement raison. Aujourd'hui, voilà, la radio va disparaître. En tout cas, va disparaître. Non, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, la radio va se réinventer, mais ça va être très compliqué d'aller chercher sa rentabilité. Voilà ce qu'il disait.
Je confirme. Je confirme parfaitement.
Et donc, il faut passer à la télé. Et donc, on est passé à la télé. C'était nécessaire. Après, il faut trouver le modèle économique pour faire vivre une chaîne de télé business. Voilà. Et c'est là que nous avons eu quelques divergences, mais au bout de plusieurs années.
Ouais. Alors, comment aider l'idée de Bismarck TV?
Alors, Bismarck TV, je la dois en grande partie à Denis Oliven. Denis Oliven, hein, que tout le monde connaît, qui a dirigé la FNAC, qui a dirigé Europe 1 à une époque, qui avait essayé de me faire venir pour refaire la matinale d'Europe 1 au moment où Europe 1 était en train vraiment de plonger. Et je lui avais dit non, je sais. Enfin, et c'est là aussi, on peut en dire un mot si ça vous intéresse. Hein, mais quand une marque est morte, elle est morte.
Ouais.
Et Europe 1 est morte. Et Europe 1 était morte avant que. C'est pour ça, ceux qui essayent de se battre aujourd'hui, j'ai un immense respect pour eux. Hein, mais quand, alors je vais vous raconter la scène. 2000, donc 2005. Oui, c'est ça, c'est 2005. Jean-Pierre Elkabbach débarque. Jérôme Bellet, donc qui est celui qui m'a vraiment appris énormément de choses, va être viré. On se retrouve ensemble dans son bureau. On est vraiment sa garde rapprochée. Voilà. Et il a sur son bureau un audit complet qu'il avait commandé avant d'apprendre qu'il se faisait virer. Audit complet de la marque Europe 1, de ce que ça représente. Enfin, vous savez ce que ça peut être, un audit de marque. Et il regarde le truc, il feuillette et il dit, mais mes enfants, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? C'est-à-dire qu'en 2005 déjà, cette marque, en fait, cette marque, c'est Kodak. Elle a raté les deux grands virages qu'elle aurait dû prendre. Le premier, c'est bah, justement la télé. Europe 1 aurait dû... Enfin non, le premier, c'est France Info. Europe 1 aurait dû lancer France Info, c'était son ADN, de marque. Voilà. Sorti de mai 68, hein. Europe 1, ça sort de mai 68, c'est mai 68 en direct. C'est la préfecture qui appelle en disant « Arrêtez de raconter en direct les manifestations, on va vous couper l'émetteur !» Voilà. Et donc France Info finalement réinventait ça. Donc Europe 1 aurait dû faire ça, et ensuite faire LCI, aurait dû faire de la télé en fait.
Voilà. Ouais.
Et donc arriver, ratant ces deux virages considérables, bah, y avait plus rien.
Ouais.
Et donc déjà en 2005, il n'y avait plus rien, et ensuite, bah, ça reste un paquebot quand même. Donc c'est un peu brutal, mais c'est la mort des auditeurs petit à petit, hein, qui fait que votre audience baisse. C'est-à-dire, vous n'avez pas de conquête, vous n'avez pas de jeunes, et donc bah, les vieux petit à petit vous quittent biologiquement.
Ouais. C'est gay.
D'abord ils deviennent sourds et puis ensuite ils meurent.
Ouais. Bah, du coup, s'il n'y a pas la télé, ils peuvent même plus. Ils me peuvent même
voilà,
plus.
Voilà. Et je pense que c'est. Voilà. Bon, bref. Et donc, je lui avais dit ça. Et donc, il me rappelle quand je me barre, quand il apprend que je m'en vais, avec un message qui là aussi quand même reste gravé parce que vous en entendez pas beaucoup. Je sais pas ce que vous allez faire, mais je vais le faire avec vous.
C'est chouette.
Et à ce moment-là, il dirige les investissements en France d'un grand groupe tchèque, d'un milliardaire tchèque, qui s'appelle Daniel Kretinsky, qui a un gros groupe d'énergie, hein, 17 milliards de valo. Enfin, peut-être qu'il est un peu perdu maintenant depuis, mais qui se rend compte notamment que c'est une énergie très carbonée, et donc qui se rend compte qu'il faut qu'il pivote son groupe, ses investissements, et qui se dit pourquoi pas dans la presse et dans les médias. Et donc, Denis Oliven est en charge d'essayer alors de faire des acquisitions, mais aussi de monter des choses nouvelles. Et donc, il me dit, écoutez, si vous voulez, nous, on est à votre disposition. Donc, quand vous avez un gars qui a un groupe de 17 milliards qui dit vous êtes à votre disposition, bah, vous dites, ah bon, oui, effectivement, voilà, on va peut-être faire quelque chose. Et donc là, avec deux associés qui étaient avec moi à BFM Business, hein, Pierre Fredenreich et Valérie Bruschini, on se dit, bah, en fait, on va faire ce que je vous ai décrit, voilà, ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire de la presse pro télévisuelle, un média ultra B2B, et donc, bah, on va voir si ça marche, on va essayer de faire ça. Évidemment, il fallait qu'on ait toutes les garanties d'indépendance pour le faire. Là-dessus, enfin vraiment, le Denis Oliven a été incroyable. Enfin, CMI a été incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont injecté du capital, en nous laissant quasiment 50%, et en tout cas le contrôle par pacte d'actionnaires de l'ensemble de l'éditorial. Donc tout va bien, on pouvait pas refuser, quoi. Voilà.
Ouais.
Et c'est en ça où je dis, je ne suis pas entrepreneur parce qu'il y a aucun risque. Alors, je pense que ça va marcher.
il y a pas de doute.
Si, il y a de gros doutes, mais au bout de les premiers 6 mois d'exercice, l'accueil qu'on a reçu, tout, finalement ça peut marcher. Mais si ça avait pas marché, les risques pour nous auraient été très limités quand même.
Ouais. Parce que du coup, là, ça a été un gros investissement de la part de CMI.
CMI, non, c'est pas gros, hein. Non. Alors, je sais pas si l'investissement est connu ou s'il est confidentiel, donc je vais pas vous le dire, mais c'est
J'ai vu que c'était en dizaines de millions d'euros.
Ah non.
Non, c'est pas ça du tout. Ah non, d'accord. Non, non, 4,5 millions d'euros, pardon.
Voilà, 4,5 millions d'euros, dont une partie en dette. Donc pour eux, non, des dizaines de millions d'euros, ça c'est BFM Business.
Ouais.
Non, oui, ça aurait été, mais c'est pas la peine, ça sert à rien.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, ça sert à quoi 4,5 millions d'euros pour.
Alors, 4,5, si vous en avez besoin, ça sert à embaucher 25 personnes. Et on a quand même on a quand même une PME là, hein, voilà, à embaucher 25 personnes et à faire de la télé, parce que ça a beau être beaucoup moins cher que ce qu'elle c'était, il faut quand même. Alors, on a externalisé nos équipes techniques. Nos 25 personnes, c'est l'éditorial et la pub et le marketing, et le digital. Mais en revanche, tout ce qui est production télé,
ouais.
Ça c'est le groupe Non-Stop qui nous loue en fait des heures de studio et ses équipes de. Et ces équipes de tournage, mais ça coûte des sous, il faut les payer ces gens-là. Donc, non, ça sert.
Ouais, ça vous a permis de vous lancer en faisant tout de suite un
ça
truc.
Ça nous donne 2 ans de visibilité.
Voilà. D'accord.
Et au bout de 2 ans, si on n'a pas validé le business plan, si au bout de 2 ans, on n'a pas une idée de rentabilité, ça sert à rien, ça veut dire qu'on s'est planté. Voilà. Mm-hmm. Donc, on verra, on fera le point dans 2 ans où est-ce qu'on en est. Quoi. Voilà.
Ouais. Et là, du coup, aujourd'hui, vous avez encore le chômage ou vous avez.
Aujourd'hui, je bénéficie de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
Ouais. Hein,
l'ACRE. Dispositif formidable. Alors, j'en ai beaucoup parlé sur l'antenne de BFM Business. Donc, ça suppose que vous ne vous versiez pas de revenus, hein,
ouais.
Ce qui est plus assez, c'est-à-dire que ce dispositif fait que on peut pratiquement créer 2 emplois de plus, avec la trésorerie de Bismart. Ouais. Donc il n'y a pas de revenu pour vous, mais Pôle emploi, j'ai devant moi, je le fais en toute transparence, donc c'est sur 1 an l'ACRE, et ça vous fait à peu près 7000 euros de revenus net par mois.
Ouais.
Franchement, et si évidemment ça dépend après de la façon, mais vous pouvez tirer le truc si vous êtes un entrepreneur sur un truc beaucoup plus. Alors je dis 7000 euros parce que je pense que dans 1 an. On aura suffisamment de trésorerie pour pouvoir peut-être commencer à me rémunérer. Si c'est pas possible, je diviserai par 2. Même si je dois diviser par 2, c'est 7000 euros. Même encore 3500 ou 4000 par mois, quand vous avez à côté un peu d'économie, etc. et tout, ça va.
Ouais.
Vous pouvez avancer. C'est très important, hein, ce dispositif. Alors, je pense que là, il était donc menacé par la réforme de l'assurance chômage de pré-Covid.
Ouais, de novembre.
Voilà. Je vois que tu connais la date, donc ça veut dire.
J'ai été chômeuse en septembre, donc c'est octobre.
Voilà.
Faire en sorte que à 15 jours près, ça passe. Donc j'ai étudié le truc aussi, ouais.
Exactement. Ouais. Et donc voilà quoi. Très bon dispositif, c'est ce qu'on dit beaucoup, hein, Pôle emploi, premier business angel de France. Donc j'avais regardé, hein, en gros, potentiel de création d'entreprise, c'est 80 000 cadres supérieurs qui donc touchent l'échelle supérieure de, qui sont au taquet en fait des rémunérations de Pôle emploi. Bon, le chiffre que je vous ai donné là, c'est 80 000 cadres supérieurs. Ils ont la possibilité tous de créer une entreprise. Voilà. Même si vous n'en avez qu'une sur 10 qui marche, 8 000 gars, qui grâce à Pôle emploi vont créer, allez, on va dire 3-4 emplois, mais ça peut être plus, vous avez 30 000 emplois, voilà. Vous avez un gisement de 30 000 emplois qui est là. Pour, je crois que ça coûte à peu près 200 millions, donc après, il faut faire la petite règle de 3, mais très franchement... Et encore, j'ai pris une hypothèse ultra conservatrice. Hein, voilà.
Ouais.
On peut dire qu'il y en a une sur deux qui marche et qu'ils vont créer chacun 20 emplois. Parce que c'est quand même, alors, c'est l'autre truc, hein, c'est ce que j'appelle la start-up de vieux. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire ce qu'ils savent faire avec un carnet d'adresses, avec une efficacité opérationnelle totale, en s'entourant de gens qu'ils connaissent, avec lesquels ils travaillent depuis des années. Donc ça donne des trucs. Super efficace.
Oui, puis même si c'est pas des embauches en direct, c'est faire quand même travailler l'économie parce que, comme tu disais avec Non-Stop, c'est.
Oui, alors bien sûr.
C'est du coup créer des emplois chez les fournisseurs, quoi.
Bien sûr.
Partenaires.
Ouais. C'est une entreprise, quoi. Bien sûr.
Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu dis que tu ne te revendiques plus journaliste, tu n'as plus ta carte de presse.
Oh là, mais je ne l'ai plus depuis 20 ans, ma carte de presse.
Du coup, tu n'es pas entrepreneur, tu n'es pas journaliste. Comment tu te définis?
On a besoin de se définir. Tu te définis, non, Charlotte?
Ah non, moi, je ne me définis pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. On n'a pas besoin de se définir. Enfin, je me définis comme une
maman. Non, la carte de presse, ça, c'est un autre sujet, la carte de presse. La carte de presse, c'est le corporatisme. Alors ça va avec le rhinocéros, voilà, hein, les bandes de cons. Non, c'est le groupe, c'est le troupeau. C'est le corporatisme, c'est terrible. C'est ce qui tue l'économie, hein, le corporatisme, la rente. C'est les corporations qui cassaient les métiers à tisser à Lyon au milieu du 19e siècle. Hein. Les corporations sont toujours contre l'innovation, toujours. Alors, je vais vous dire quand est-ce que j'ai lâché la carte de presse. C'est quand la commission de la carte, non, ça s'est fait un peu avant, mais ça a été pour moi, quand la commission de la carte a refusé de donner la carte de presse aux journalistes de ce qui s'appelait alors le petit journal sur Canal+. Le petit journal de Yann Barthès, qui commençait tout juste, et avec tout ce qu'ils avaient d'impertinence, de réinvention, etc. Et la commission de la carte avait décidé que c'était pas du journalisme. En partie parce qu'ils se foutaient de la gueule des journalistes, d'ailleurs. Et donc là, je dis non, c'est pas possible. Non, pas de carte de presse. Pas question de faire partie de cette corporation.
Ça ne fait plus partie. Et aujourd'hui, ça n'a aucun impact sur...
Aucun. La carte de presse, elle peut être importante si vous êtes reporter. Parce que y a des tas d'endroits où on vous la demande pour rentrer. Je crois, enfin, à l'époque, conférence de presse à l'Élysée, il fallait une carte de presse, par exemple, même si vous pouvez, enfin, si, ouais. Non, mais il y a des zones de conflit, alors, ils sont à peu près organisés. C'est pas mal d'avoir une carte de presse. Quand, notamment, vous travaillez avec l'armée israélienne, je crois qu'ils sont très, enfin, même s'ils font leur propre enquête maintenant, enfin, j'en sais rien. Enfin, bref. Ouais. Et sinon,
dans certains contextes,
Charlotte, elle sert à une seule chose, la carte de presse. Tu sais très bien à quoi elle sert, la carte de presse.
À rentrer dans les,
Elle sert à faire 4000 euros d'économie d'impôts, voilà, point à la ligne. Elle sert à défiscaliser, à se retirer 7000, c'est combien ? 7500 euros de son revenu imposable, voilà. Et comme les journalistes sont quand même assez bien payés, ils sont pour beaucoup d'entre eux dans la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, donc c'est 45% de ces 7000 euros qui se mettent dans leur poche, voilà. Voilà ce que c'est la carte de presse. Mais quand vous dites ça, la corporation vous dit mais non, mais pourquoi ? Parce que ça revient régulièrement. Hein, alors, vous avez des grands colloques sur pourquoi la défiance envers les journalistes. Allez-y, allez faire un tour sur Twitter. Tiens, pourquoi vous n'aimez pas les journalistes ? Vous allez voir la niche fiscale qui va débarquer tout de suite. Et les gars vous disent oh mais non, mais c'est pas un sujet, mais ça coûte rien du tout. Tiens, ça doit coûter à peu près ce que coûte le dispositif aide à la création et à la reprise d'entreprise. Voilà, c'est quand même beaucoup plus efficace qu'une carte de presse.
Ouais. Même si je sais que vous n'avez pas envie qu'on parle de votre enfance, mais qu'est-ce que vous pensez que le petit Stéphane de 6 ans dirait si vous voyez aujourd'hui ?
Oh non, alors là, on ne va pas faire ça, Charlotte.
Non.
Je suis désolé, hein. Je suis désolé, malgré votre grand sourire, vraiment. Non, on va pas faire de...
La question, elle fait partie de toutes les interviews, c'est pour ça que je la pose.
Oui, mais alors moi, non.
Non, vous voyez, Joker.
Je crois qu'il s'en fout complètement. Voilà, non.
Bon, on n'en parle pas alors, c'est pas grave.
On n'en parle pas, c'est qu'on va pas se mettre à faire de la psychologie de comptoir. Non, franchement, non.
Qu'est-ce que, quand on dit qu'il y a des choix, il y a des renoncements, aujourd'hui, c'est quoi du coup vos renoncements par rapport à votre nouvelle vie ?
Rien, aucun. À quoi j'ai pu renoncer ? Oh, alors là, ouf, rien. Je sais que j'ai fait de la peine à deux ou trois personnes qui aimaient beaucoup travailler avec moi et que je ne peux pas récupérer sur Bismarck parce que je n'ai pas les moyens de les payer. C'est tout.
Ouais.
Mais sinon, à quoi j'ai renoncé ?
Même dans votre vie perso
Non, ma vie perso, j'ai plutôt... comment c'est quoi le contraire de renoncer ? J'ai plutôt gagné. Renoncer. J'ai plutôt acquis. Ouais. Plutôt que renoncer. Ah ben non. J'aurais jamais pu faire ce qu'on fait là. Hein. Jamais. Consacrer 2 heures là, jamais. Impossible.
C'est quoi la plus grande difficulté que vous avez traversée, du coup, dans toute ma
carrière professionnelle ?
Ouais.
Oh, c'est les débuts à business quand même. Bah, c'est-à-dire que les premières interviews que je faisais, j'appelle ça les interviews en langues étrangères. Je comprenais un mot sur deux quand même. Donc non, là ça a été. Mais en même temps, quand je m'en souviens, quand vous n'avez pas le choix, vous avez sauté. À un moment, vous avez un parachute, vous savez pas faire de parachute, bah vous êtes bien obligé d'apprendre à faire du parachute. Hein. Donc vous, je crois pas que vous le vivez comme un moment désagréable. C'est un moment, c'était un moment intense. Mais non, sinon, c'est très arrogant à dire, mais des choses. Ma femme dit, t'as jamais quitté l'autoroute.
Ah.
Voilà. Je pense que c'est une jolie phrase.
Ouais. Parce que après, il y a de plus en plus de gens qui disent que justement maintenant il faut prendre les petites routes.
Oui. Non, mais quand je dis j'ai jamais quitté l'autoroute, c'est-à-dire que j'ai toujours eu devant moi une route dégagée dans laquelle j'avançais vite et sans difficulté.
D'accord. Ouais. Ok.
Hein, c'est ça le truc. C'était ça l'autoroute. Voilà.
Et est-ce que quand vous avez lancé Bismarck TV, vous avez eu des peurs, des doutes?
Non, parce que. Mais voilà, c'est l'autoroute, c'est-à-dire que, alors non seulement c'est l'autoroute, mais vous avez un motard pour vous ouvrir le chemin. Mais non.
Ouais, après, il peut y avoir l'ego qui se dise, j'ai toujours été, justement, c'était toujours l'autoroute, et en fait, au final,
ça marche pas. Ce qu'on se disait, ce qu'on s'est dit, quand on a lancé le truc, nous, on s'est dit, on va créer un colossal effet déceptif. On est l'équipe de BFM Business, les gens, un certain nombre de gens qui nous adoraient, ils veulent la même chose, sauf qu'on a 10 fois moins de moyens. 10 fois, hein, exactement 10 fois moins de moyens. Donc ça va être un colossal effet déceptif. Et il va falloir assumer ça. Voilà. Donc, on s'y était préparé, et à l'arrivée, même pas.
Ouais.
À l'arrivée, même pas. C'est surprenant. Si j'avais Alain Veil en face de moi, je lui dirais, tu vois Alain, ça confirme ce que je pense. C'est-à-dire que ces gens veulent du fond. Parce que avec Alain dans les débats, hein, c'est que il fallait, alors vous disiez le passage à la télé, il voulait que je fasse de la vraie télé, c'est-à-dire vous faites le sommaire debout devant un grand écran, et puis après vous changez l'axe de caméra, et puis après vous vous mettez dans ce côté du studio, et puis après vous parlez avec lui qui est debout, et puis après on lance un reportage, et puis après machin et tout. Je dis, mais Alain, ça m'emmerde de faire tout ça, moi je veux des gars en face de moi et qu'on discute. Mine de rien, visiblement, quand même, c'est ce que veulent. En tout cas, notre communauté. Voilà.
Ouais. Et du coup, c'est qui la communauté?
Ah bah, c'est les entrepreneurs. Hein. Alors, ouais. Les entrepreneurs, l'ensemble de ceux qui s'intéressent aux mécaniques de création de richesse dans l'entreprise. Voilà. L'ensemble de ceux qui s'intéressent à la microéconomie. Hein. Alors, quand vous faites de la microéconomie, vous êtes obligé quand même de faire un peu de macro. Notamment en ce moment, par exemple, hein, c'est obligatoire pour donner des perspectives, pour expliquer un certain nombre de choses. Alors, c'est là où on peut expliquer. Tout ce qui est microéconomie, on reçoit, c'est du témoignage, on apprend. Tout ce qui est macroéconomie, là, on apporte des experts et on renvoie, on est un peu en top-down, si on peut dire, on renvoie de l'information à ceux qui veulent l'apprendre, notamment tout ce qui tourne autour de la dette publique aujourd'hui, qui paralyse un certain nombre de chefs d'entreprise. Voilà, leur expliquer que non, cette dette publique n'est pas gênante, pas celle-là. Enfin bref, je vais pas vous faire tout le truc, mais
donc, il faut écouter Bismarck TV pour ça.
Il faut écouter Bismarck. Non, puis c'est pas le propos de votre podcast, Charlotte. Donc voilà. Mais c'est c'est tous ceux qui s'intéressent à la micro. Donc ça veut dire qu'il y a, je le sais, il y a un certain nombre d'étudiants, par exemple. Ça peut être des étudiants, ça peut être des cadres en entreprise, ça peut être des entrepreneurs, et évidemment beaucoup de retraités qui continuent comme ça à suivre ce qui se passe, particulièrement dans leurs entreprises. C'est pour ça qu'il faut des petites, des moyennes, mais aussi des grandes. Hein. Alors, c'est toujours, là aussi, grande incompréhension du discours politique sur l'entreprise en France. Vous entendez partout, 94% des entreprises sont des TPE et des PME. Eh oui, mon garçon, mais la moitié de l'emploi salarié, il est dans les grandes entreprises. Donc, quand tu parles aux gens, la moitié des gens à qui tu parles, ils sont dans les grandes entreprises. Voilà.
Donc, il faut... Ouais.
Donc, je suis ravi quand il y a le patron de L'Oréal qui vient. Je suis ravi quand, voilà, de temps en temps, il faut le CAC 40, quoi.
Ouais.
Jean-Paul Agon, quand vous avez Jean-Paul Agon qui vient et qui passe une demi-heure avec vous, mais c'est une série d'input, hein, parlons un peu de marketing, c'est une série d'input et pour l'ensemble de ses équipes, mais pour tous ceux qui gravitent autour de la galaxie L'Oréal, c'est énorme comme masse d'input que vous pouvez faire. Voilà.
Ouais. C'est sûr.
Donc il les faut aussi ces gens-là.
Ouais. De quoi
mais
vous êtes
leur parler business. C'est-à-dire que quand, pourquoi est-ce qu'ils sont un peu réticents à aller sur les grands médias ? Parce que sur les grands médias, on va leur parler de leur salaire, on va leur parler des dividendes, on va leur parler. Personne ne va leur parler de business. Mmh. Une seule fois, j'ai eu la chance d'interviewer Bernard Arnault. Mmh. Une seule fois. Et on a terminé l'interview, il m'a regardé, il fait « C'est la première fois depuis je ne sais pas quand que je parle de ce que je fais. » Voilà. Le marketing du luxe, la création de marque, enfin, l'ensemble de l'alchimie incroyable qu'a réalisé LVMH.
Mais c'est vrai, enfin, moi, je sais que j'écoute très peu la radio, je regarde très peu la télé parce qu'en fait, je n'en peux plus de ces interviews poil à gratter, de ces, où on est vraiment toujours en train d'essayer de chercher la petite bête au lieu de mettre en valeur les choses, en fait.
Eh ben, Charlotte, on est d'accord. Ouais. Voilà, bienvenue au club.
C'est épuisant et puis même enfin pour le moral enfin c'est et
tu vois Charlotte t'es pas journaliste
non
t'as pas de carte de presse
non en effet
voilà et ben voilà c'est QFD
ouais c'est ça de quoi t'es le plus fier aujourd'hui
soyons puisque tu veux m'emmener dans l'intimité c'est de me mettre à table avec une femme 4 enfants et que ce soit le bonheur. Voilà.
Ouais, c'est une chance.
Ah bah quand ils ont entre 19, enfin bientôt 20 maintenant, entre 20 et 25 ans, ouais.
Ah, c'est chouette. Si demain tu croises quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton histoire et qui te dit que tu en es là uniquement grâce à la chance, qu'est-ce que tu lui réponds?
Non, évidemment que non. Mais non, c'est ce qu'on s'est dit. Alors, j'ai un peu répondu à la question au début. Mmh. Il faut de la chance. Incontestablement, il faut de la chance. Mais après, il faut savoir surfer sur la chance. Voilà. Il faut effectivement, donc, le 2 août 90, t'es là, t'es tout seul. À la rédac, tiens, je vais te raconter une histoire. Donc, le 2 août 90, t'es là, t'es tout seul à la rédac, tu pars, et tu te retrouves dans un pays très compliqué, l'Arabie Saoudite, tout seul, avec des sources d'informations nulles, l'Arabie Saoudite, hein, dans une chambre d'hôtel, et tu trouves le temps long quand même, hein. Il se trouve que quelques années avant, je ne sais pas si l'histoire de la grotte d'Ouvéa te dit quelque chose.
Non.
Non. Donc, c'est la Nouvelle-Calédonie, 84.
Ah, j'avais un an.
Voilà. je vais la faire rapide. Les Kanaks donc, de Nouvelle-Calédonie prennent en otage une dizaine de gendarmes. C'était donc il y avait des émeutes régulières. C'était une guerre, les Kanaks. Prennent en otage des gendarmes dans une grotte. C'est autour de Noël. Et je crois que c'est une trentaine de gendarmes. Et bah, évidemment, tous les reporters partent donc à l'autre bout du monde. Et Noël approche. Et un certain nombre d'entre eux, et notamment grand reporter d'RTL, appelle sa rédaction et dit « Écoute, là... j'ai envie de faire un aller-retour pour Noël, voir mes enfants. Franchement, la situation est pourrie, complètement stable. Je vois pas ce qui pourrait se passer. Est-ce que tu crois que je peux faire l'aller-retour et tout? T'es bien sûr de toi? Disent les mecs. Oh, bah oui. Non, mais t'as raison. Et puis ça peut peut-être durer. Ok, fais l'aller-retour. Voilà. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà. Bah, évidemment, ça c'est.
Non, pas la libération.
C'est parti en
cacahuète. L'assaut a été donné. Ouais. Il y a eu je ne sais plus combien de morts.
D'accord.
Ça a été plusieurs gendarmes tués. Enfin, ça a été une histoire incroyable.
Il était en famille avec ses enfants.
Il était dans l'avion même. Ouais. Il était dans l'avion même. C'est 24 heures d'avion. Hein. Ouais. Il était dans l'avion. Je crois qu'il a fait demi-tour, je ne sais pas où, quelque part à Singapour ou je ne sais pas où et tout.
Mais bon, c'était trop tard, quoi. Ouais.
Je peux te dire que cette histoire-là, mais personne jamais n'aurait eu la capacité de me faire rentrer d'un reportage tant que c'était pas terminé. Voilà. Il y a eu alors voilà, c'est là où tu te dis ok, t'as la chance, mais derrière il faut tenir, mon pote, faut tenir. Quand il y a eu après la guerre du Golfe, il y a une intervention alors militaire, les plus anciens s'en souviendront, intervention militaire importante de l'armée américaine en Somalie. Il y a une terrible famine en Somalie, notamment une ville qui s'appelle Baidoa. Et bah, c'est l'époque, c'est un peu monde d'après. Les Américains ont gagné la guerre du Golfe. Et donc, vous allez voir, mais non, on n'est pas des enculés, on protège pas seulement le pétrole. On est aussi capable de se mobiliser pour là. Et donc, Somalie, on part en Somalie, l'armée française y participe. J'y suis resté 6 semaines en Somalie, dans des conditions que tu peux imaginer. Il a fallu rapatrier de force, c'est-à-dire que c'est les médecins militaires français qui m'ont mis de force dans l'avion. J'étais complètement anémié, en fait. On était embedded, là, on était avec eux, vraiment, on était avec les forces combattantes. Et c'est une après-midi, je pouvais même plus tenir le stylo. Je pouvais même plus tenir un stylo pour écrire et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Le médecin arrive, il vous regarde, machin. Il dit, mais vous êtes là depuis combien de temps, jeune homme? Je dis, mais ça fait 6 semaines. Et donc là, intraveineuse, l'avion, etc. Donc c'est ça.
Ouais.
Tu n'as pas que de la chance.
Voilà. Ouais, tu lâches rien.
Mais il en faut.
Ouais. Oui, il faut rencontrer les bonnes personnes. Mais bon.
Exactement. Exactement.
Quand on s'ouvre et qu'on est sur son bon chemin, souvent. Ouais,
non, mais des fois, il faut choisir les bons chevaux aussi. Hein.
Oui, aussi. Ouais.
C'est-à-dire que quand El Kabbach débarque, je serais resté dans mon coin. Il me met au placard, mais en fait, comme je suis quand même, je sais faire, quoi, et puis il sait que je sais faire. Au bout de 2 mois, il m'aurait sorti du placard, voilà. Et j'aurais fait ma petite vie, finalement, européen. Et je serais comme sont certains de mes copains qui y étaient à l'époque et qui y sont toujours. Ils sont pas très heureux. Parce qu'à un moment, t'as pas pris ton destin en main. À un moment, t'as pas fait le bon choix. Et j'ai rencontré Alain Veil. Et tu te dis, ce gars-là est exceptionnel, donc on va y aller. Mais voilà, il y a une petite prise de risque.
C'est sûr. Quel conseil est-ce que tu aurais aimé donner, quel conseil tu aurais aimé recevoir et donc du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
Le conseil, je l'ai reçu. C'est à l'école de journalisme où tout de suite on m'a dit fais de la radio. Et ça a été la rampe de lancement.
Mon premier... Pourquoi c'était un conseil
La voix.
La voix, d'accord. La voix, hein.
Oui. Mm. C'est comme t'es sportif, hein, voilà. À un moment, faut se servir de ses qualités. La voix et pas le physique, donc en plus ça réglait le sujet entre radio et télé. Donc voilà, la voix. Et puis donc ce conseil-là, je l'ai reçu. Après, j'en sais rien, je sais pas moi, quel conseil j'aurais aimé avoir. J'en sais rien. C'est le rhinocéros quand même.
Ouais. Avant dernière question, c'est quoi tes prochains défis?
Ah ben là, il n'y en a plus là. Hein? Ah ben non. Après, non, c'est fini là. Non, start-up de vieux. Et donc, j'ai 55 ans. C'est bien. Donc là, en gros, on est parti pour une histoire. Si cette histoire de Bismart nous emmène sur les... peut-être même pas les 10 prochaines années, ce sera très bien. Et puis, j'espère, avec Bismart, qu'il se passera ce qui se passe avec BFM Business, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura lâché la chaîne, elle tournera, et là, enfin, on est entouré de jeunes gens qui sont formidables et qui auront les capacités de la faire tourner si jamais le modèle est le bon. Et puis, non, voilà, c'est fini, on tire le rideau. Non, justement, je préfère El Kabbach, moi, le mec a 80 balais, mais arrête. Je pense que c'est le signe d'un profond désespoir. Hein. Mm. Quand à un moment t'arrives pas à te dire, c'est bon quoi, je vais arrêter d'être un personnage public, je vais arrêter de, enfin non, c'est fini. Et puis les mots sont grands, ils ont qu'à se démerder. Et donc, voilà. Tu sais, hein, je crois que c'est Bouzou qui a écrit un bouquin là-dessus. Et c'est un truc qu'on n'arrive pas à croire quand on a ton âge, Charlotte, que en fait, le degré de plénitude grandit avec les années. Donc, je pense qu'il y a un moment où les problèmes physiques te rattrapent et où donc ça décroît. Mais quand t'es, j'ai la chance d'être en pleine forme physique tu vois arriver la soixantaine avec. Avec appétit.
Ouais, super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Ah, à qui j'ai envie de dire merci ? À Jérôme Bellet et à Alain Veil. Évidemment à ma femme, mais ça, c'est notre intimité. Je crois que tu avais dit que tu en parlais à un moment, mais si elle n'avait pas été là, je ne sais pas si rien de tout cela n'aurait été possible, mais enfin. Une immense partie de tout cela n'aurait pas été possible. Voilà. Donc ça, évidemment. Mais derrière, Jérôme Bellet, il a débarqué à Europe 1. Il a dit, alors justement, qu'est-ce que c'est que ce rhinocéros ? Il me casse les couilles, celui-là. Et puis après, c'est devenu mon maître. Et puis ensuite, Alain Veil, qui lui, alors, m'a fait confiance. Franchement, parce que je fais le malin, là. Quand tu te retrouves, dans la rédaction que tu avais quasiment dirigée, au placard avec donc un gars qui dit que t'es la dernière des que tu as que enfin bon bref tous les jeunes gens qui te regardaient un peu comme la réincarnation du Dalai Lama et qui là pouf pas grand chose hein, il se retrouve comme un con là, hein, voilà hein c'est le malin mais quand il y a un gars qui appelle et qui dit je crois en vous en l'occurrence Alain Veil ça va
ça fait plaisir à papa.
Vous pouvez, pour le restant de vos jours, lui devoir une fière chandelle.
Ouais, c'est sûr. Ouais, puis c'était une belle aventure derrière, en plus.
Ah évidemment, bien sûr. Ouais.
Un immense merci, Stéphane.
Eh merci, Charlotte.
Et puis, plein de succès pour Bismarck TV, mais...
Et moi, plein de succès pour toi. C'est toi qui as maintenant des défis à relever et à monétiser cette aventure.
En effet. Bon, ça, il commence à y avoir des beaux projets qui arrivent.
Bon, très bien. Bonne route.
Merci beaucoup.
Au revoir, Charlotte.
Au revoir.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, nous retrouverons la merveilleuse Émilie Martinet pour notre deuxième rendez-vous dans Chemin. Émilie est en plein changement de vie. Elle a quitté sa vie de commerciale grand compte pour devenir décoratrice d'intérieur. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?